La mitzvah Tayom de Rosh Hashanah, c'est donc le chauffard. On va essayer de voir un peu plus clairement ce que c'est que cette histoire de chauffard. D'accord ? C'est une corne de bélier dans laquelle on souffle et on est censé produire des sons qui s'appellent trouas. Ça, on l'avait déjà vu. Alors, comme je vous ai dit dans les filas de Moussaf, on sonne pour les Malchouyot, Zichronot et Shofarot, et avant de sonner pour les Shofarot, on va dire 10 psukim, 10 versets qui parlent du Shofar, et le texte par lequel commencent les versets qui parlent du Shofar, c'est un texte qui dit Ata nigleta ba'anan kvodecha, tu t'es dévoilé dans ta nuée de gloire, al am kodecha, sur ton saint peuple, pour parler avec eux. Donc, minashamaim, tu as fait entendre ta voix, tu t'es dévoilé à eux, dans cette espèce de brouillard qu'il y avait. Et le monde entier tremble devant toi, et les créatures, tout ce qui a été créé depuis le début, est empli de crainte lorsque toi, notre roi, tu te dévoiles sur le Har Sinaï, sur le mont Sinaï. Donc, les Chachamim qui ont donc instauré ce texte, ils ont voulu montrer qu'il y a une mida d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, une mida c'est une mesure, mais bien entendu on ne peut pas mesurer Hachem de quelque manière, et donc il s'agit d'une façon que nous avons, nous, de recevoir son dévoilement. Il se présente à nous, et nous, si nous devons dire quelque chose sur cette façon qu'il a de se présenter, alors on va dire que c'est une mida, ça nous permet de prendre la mesure des choses. Le secret de ce dévoilement, le secret de Hachem Elohim, que Hachem Elohim, c'est le nom d'Hachem complet, donc dans la puissance il va venir, au point que rien ne peut supporter en réalité son dévoilement. S'il n'y avait pas, justement, ce principe qui est à l'œuvre ici, ce secret en quelque sorte, en fait, nous ne pourrions pas recevoir la Torah min haShamayim. En d'autres termes, si vous voulez, la réception de quelque chose qui vient min haShamayim, ça n'est pas possible à un être humain. On avait quelque chose de cet ordre-là, dans le fait que quand il s'agit de parler à Paro, Moshe Rabbeinu ne peut pas lui parler. Parce que comme la parole de Moshe Rabbeinu, c'est Hachem qui parle par la bouche de Moshe Rabbeinu, Paro ne peut pas recevoir une telle parole. Alors on a mis entre Moshe et Paro, on a mis Aaron. Hachem a fait en sorte que Aaron puisse recevoir la parole de Moshe et la répercuter à Paro. Paro pouvait recevoir la parole de Aaron, pouvait pas recevoir la parole de Moshe. Parce que ça vient de trop haut, si vous voulez. Alors, c'est vrai pour toutes les créatures. Le dévoilement d'Hachem, on peut pas le supporter, en quelque sorte. C'est trop de lumière. C'est comme s'il n'y avait pas d'atmosphère, on ne pourrait pas supporter le soleil. Il n'y a pas une atmosphère pour nous rendre la lumière et la chaleur du soleil acceptables, on serait brûlé complètement. On ne pourrait pas recevoir non plus la Torah, donc. Mais comme il y a cette mida, là, cette qualité divine, Hachem a décidé de se dévoiler. pour enseigner à ton peuple, comme le dit le texte, Torah et Mitzvot. Donc Hachem, évidemment, puisqu'il s'adresse à nous, il nous donne la force de le recevoir. Et Bémet, en réalité, il y a là deux choses. Il y a le dévoilement lui-même d'Hachem, et puis il y a le don de la Torah. Au Sinaï, il y a eu les deux choses. Si vous voulez, on pourrait dire, il y a l'événement Sinaï, bonsoir, il y a l'événement Sinaï, qui est le dévoilement, et puis ensuite, dans ce dévoilement, Hachem nous donne la Torah. Et c'est ce que nous disons dans le, par exemple, on le dit le soir de Pessah, Ilu kervanu lifnei har Sinaï, velo natan lanu et ha Torah, dayeinu. Si Hachem nous avait amenés jusqu'au Sinaï, et qu'il ne nous ait pas donné la Torah, ce serait suffisant. Mais c'est un peu compliqué, parce que si on n'a pas reçu la Torah, il manque l'essentiel. Donc ça veut dire, ce qu'on veut dire ici, le dévoilement à lui tout seul, il est déjà suffisant. La relation qui s'établit avec Hachem par son dévoilement, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Le texte continue et dit « Bekolot ubrakim aleim nigleta, bekol shofar aleim ofata ». Tu t'es dévoilé au milieu de tonnerre et d'éclat, c'est un vrai son et lumière, et puis en plus, tu es apparu « Bekol shofar » avec la voix du shofar. Il y a eu du shofar un son de shofar qui a été entendu par les Bnei Israël, dans lequel Hachem se dévoilait à eux, se présentait à eux. C'est « Kol shofar ». Cette notion-là, « Kol shofar », qui a priori ne vient pas du fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui a soufflé dans une corde de bélier, mais il y a quelque chose qui s'appelle dans le monde d'en haut « Kol shofar ». Cette mida, ce secret en fait, d'un dévoilement, le secret du dévoilement, ou le mot qui contient l'idée, force qu'il y a dans ce dévoilement, s'appelle shofar. Comme le texte le dit, me kol shofar ofata. Tu t'es présenté à eux, tu es advenu devant eux, me kol shofar, par le biais de au milieu de Kol Shofar, la voix du Shofar. Tous les autres versets de la Torah qu'on va citer dans les 10 psukim qu'on dit avant de sonner du Shofar, dans Moussaf, parlent tous de cela. Le texte dit « Kakatuv betoratecha » comme c'est marqué dans la Torah, Vahi Bayom Ashlishi, le troisième jour, Bihiot Aboker, le matin, Vahi Kolot Uvrakim, Ve'anan Kabodalar, il y avait ce qu'on a déjà dit, il y avait le son et lumière, et il y avait la nuée de gloire sur le Sinaï, Ve'kol Shofar Chazak Meod, et une très puissante voix, un très puissant son du shofar, tout le monde a été complètement pétrifié. Cette crainte, ce tremblement, il était dû au kol shofar, à cette voix, ce son du shofar. Parce que les Bnei Israël étaient encore dans le machané, dans le camp en bas. Venehema, le texte continue, Cholaam, Roim et Akolot, et Alapidim, et Kola Shofar, et Ahar Hashem, Vayaraam, Vayanu, Vayamdu Mirachok. Ils ont vu les Kolot. Normalement, les Kolot, ça s'entend, ça se voit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont vu les colottes. L'Agmara, Chazal disent, At, Tsea Machane. Ce son-là, on l'entendait jusqu'au fin fond du Machane, du camp des Bnei Israël. Et les Bnei Israël se sont tenus à distance. Ils ont été paralysés, ils ne pouvaient pas s'avancer plus. Ils ne pouvaient pas, normalement, ils avaient la permission d'aller jusqu'au pied de la montagne, mais ils étaient dans le camp et ils ne pouvaient pas avancer plus. Et tout ça, c'est avant même les Aseret HaDibrot, bien sûr. C'est avant qu'il y ait un enseignement. Il y avait seulement le son et lumière et le col chauffard et cette brume, cette fumée qui entourait la montagne. Donc ce qui les a à la fois pétrifié, etc., c'est ce fameux son du chauffard. Cette mesure, cette mida, donc, de dévoilement. C'est, en fait, le moment du... Le summum de ce dévoilement. Et chaque fois que cette mida là va arriver, va se manifester, on ne peut absolument rien faire, on est paralysé, il n'y a aucune fonction du corps qui peut nous faire bouger en quelque sorte. On ne peut pas ne pas se plier, ne pas accepter, si vous voulez, ce qui se manifeste là. Ça, c'est le récit de ce qui s'est passé au Sinaï. Maintenant, en ce qui concerne notre Rosh Hashanah à nous, Akadosh Baruch Hu a dit « Imru lefanai malchuyot »« Dites devant moi des paroles qui proclament ma royauté » Parce que c'est ainsi que vous allez me couronner comme roi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le roi, pour montrer qu'on le considère comme roi? Ben on va dire, vive le roi, on va dire des paroles qui disent qu'on l'accepte comme roi. Alors curieusement, la Gemara demande, Imru lefanai malchuyot kdei shtamlichuni alechem. Dites devant moi ces paroles de Malchuyot, afin que vous me couronniez comme roi. Et la Gemara demande, bah mais, avec quoi? La Gemara répond, le chauffard. Avec le chauffard. Toutes les Malchuyot, tous les versets, toute la prière sur le dévoilement de la royauté divine, tout ça, ça n'amène pas encore le couronnement du roi. C'est pas suffisant. Les vives le roi, etc., c'est très bien, ça doit avoir lieu, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant comme tamlichuni alechem. C'est pas suffisant en tant que vous me couronnez comme votre roi. Il faudra quelque chose de plus, et ce qui va vraiment montrer que nous couronnons Hachem comme roi, c'est de dire ces malchuyot avec le principe du chauffard, accompagné avec le chauffard, avec la puissance chauffard. Ensuite, on dit avant qu'on sonne le chauffard, on dit Allah Elohim bitrua, Hashem bekol chauffard. Elohim monte, si on peut parler comme ça, avec la troua, donc qui est une certaine sonnerie, Hashem bekol chauffard. Hashem, lui, cet Elohim monte avec la troua, et Hashem, le tétragramme, le nom le plus grand nom divin, lui, il monte avec Kol Shofar. C'est marqué, Tikou Bachodesh Shofar, Kichok li Israelou Mishpat Elokei Yaakov. C'est marqué, Bachatotrod, le Kol Shofar, Ariou, c'est-à-dire sonner, Lifnei HaMelech Hashem. Tous ces versets parlent de notre Shofar à nous. Jusqu'à présent, on a parlé du Shofar, du Kol HaShofar qu'il y avait au Sinaï, et maintenant on parle de nos sonneries à nous, de Shofar. Alors le problème, c'est en quoi nos sonneries de Shofar ont-elles à voir avec ce fameux secret du dévoilement d'Hachem de la manière la plus puissante qui soit et qui s'appelle Shofar. Vous voyez, les hommes sonnent du Shofar et a priori, ça doit être en rapport avec le Shofar qui a retenti au moment où Hachem s'est dévoilé au Sinaï. On veut bien savoir c'est quoi le lien entre les deux. On voit ici quelque chose d'assez énorme. Le Shofar, c'est vient éclairer tout le sujet des mitzvot de la Torah, les mitzvot où on doit faire des gestes. Les mitzvot que bouge le loulav, tu sonnes du shofar. Puisqu'il existe un principe général qui s'appelle shofar, qui veut dire, qui est le principe de base, qui veut dire dévoilement d'Hachem au plus haut niveau, alors HaKadosh Baruch Hu nous a donné, à nous, ce secret-là, ce même principe, en tant qu'une mitzvah positive que nous avons à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, grâce à cette mitzvah de shofar, Hachem nous a donné, à nous, êtres humains, enfin, à nous, bnei Israël en fait, un moyen de telle sorte que nous aussi, nous puissions arriver à au degré suprême, si vous voulez, de cette mida de dévoilement. La mitzvah de sonner du shofar, elle est là pour que nous arrivions nous aussi à ce moment du dévoilement. C'est-à-dire que quand le Klal Israël est en train de sonner du shofar à Rosh Hashanah, qu'à ce moment-là, il accepte la divinité d'Hachem, concrètement, de façon la plus puissante, sans aucun reste, ça veut dire, on accepte complètement qu'Hachem est notre roi, qu'Hachem est notre divinité, au point que on est prêt à donner toutes nos forces dans au service de ce roi. On va le consacrer toutes nos forces, on va le consacrer tout notre temps. Le corps, l'âme, tout ça c'est au service de ce roi. Et on a, dans cette démarche-là, on n'a pas d'autre volonté que cela. Ça nous prend complètement, on est entièrement là-dedans. Alors, comme dit le Passouk, Allah Elokim Bitroa Hashem Bekol Shofar. À ce moment-là, toute la façon de gouverner le monde d'Hachem y compris évidemment l'ordre naturel des choses, tout ceci va dans la direction du dévoilement de la divinité d'Hachem. Que ce soit les lois de la nature qui sont à l'œuvre, si vous voulez, ou que ce soit de gouverner le clan Israël de façon évidemment miraculeuse, quand les Bnei Israël sont dans cet état maximum, en fait, de service d'Hachem, alors on obtient aussi l'état maximum de dévoilement d'Hachem. Il faut entendre, c'est assez énorme ce qu'il dit là. Quand Hachem s'est dévoilé au Sinaï, il y avait du shofar. Parce que shofar, c'est l'expression, disons, audible du dévoilement. Mais c'est une expression, à ce moment-là, qui était tellement énorme que ce qui, normalement, n'est que audible, était à ce moment-là également visible. Rohim et Akolot. C'est-à-dire que, si vous voulez, la manifestation en question, elle était telle que tous nos sens, notre capacité à entendre, notre capacité à voir, voilà, recevaient ce dévoilement. C'était à la fois quelque chose d'audible et aussi quelque chose de visible. Si vous voulez, cette distinction entre l'audible et le visible, si on veut dire ça comme ça, on peut dire c'est des types d'ondes différents. Et alors, voilà, nous étions à ce moment-là dans un état tel que ce dévoilement d'Hachem qui, lui, dépasse complètement les séparations entre les longueurs d'onde qui ont à voir avec l'audition et celles qui ont à voir avec la vision. De même que dans le dévoilement, il n'y a pas ces limites, il n'y en avait pas non plus dans la réception de ce dévoilement. Et ça, cette situation, elle est caractérisée par le mot shofar. En disant shofar, c'est tout ce processus-là. Hachem nous donne une mitzvah à faire, une mitzvah positive, un geste à faire au clan Israël. Le clan Israël doit faire ce geste, chacun doit faire ce geste. Et ce geste-là, on l'appelle aussi shofar. Donc si vous voulez, c'est comme si vous avez des choses qui, à un certain niveau, ça se dévoile de cette manière-là. Le shofar, le col shofar, bon, évidemment il n'était pas dû à une corne de bélier, etc., mais il y avait un col qui s'appelle col shofar, et concrètement, dans le monde, dans Olam Hazé, dans notre monde à nous, dans notre monde matériel, cette même notion-là, elle s'incarne, si vous voulez, dans une sonnerie d'une corne de bélier. On va voir pourquoi, si on arrive à comprendre le pourquoi de la chose, mais c'est comme ça. Bon, on va avancer un petit peu. Pardon? Oui, c'est-à-dire, c'est pas une réminiscence. On est en train de créer les conditions pour que ce dévoilement ait lieu.
C'est
Hachem, oui, Hachem se dévoile à nous, dans la mesure où il peut se dévoiler à Rosh Hashanah, à nous aujourd'hui parce qu'on n'est pas au Sinaï, d'accord, mais ce dévoilement-là, de la même manière, si vous voulez, que le col chauffard se réduit à une sonnerie dans une corne de bélier, pour nous aussi, le dévoilement, il se réduit à ce qui se dévoile pour nous à Rosh Hashanah. Mais ce n'est pas une réminiscence, c'est une façon de se retrouver, c'est comme si nous créions les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'il y ait ce dévoilement d'Hachem.
Et pourquoi on ne se prosternerait pas comme on le fait pour les Kippour, pendant qu'on a écrit le
Shabbat? On ne s'est pas prosterné au Sinaï.
Non, mais là, on sait que c'est le dévoilement d'Hachem.
Mais oui, mais au Sinaï aussi, c'était le dévoilement d'Hachem.
Mais à Kippour, on se prosterne.
À Kippour, on se prosterne. Ça, c'est dans le processus de... Dans la avoda, si vous voulez, il y a des gestes à faire. Mais ces gestes-là, ils n'ont pas été prescrits dans le chauffard. On ne nous a pas dit « couchez-vous par terre et sonnez le chauffard ». On nous aurait dit « couchez-vous par terre, sonnez le chauffard », on l'aurait fait.
Donc qu'est-ce qu'on doit faire?
Écoutez.
Juste ça.
C'est tout. La mitzvah, c'est même pas de sonner le chauffard. La mitzvah, si vous souvenez, la bracha qu'on fait, c'est l'ishmoa kol shofar. C'est d'écouter la voix du shofar. Il faut bien que quelqu'un sonne. Mais la mitzvah, c'est pas de sonner. La mitzvah, c'est d'entendre. Alors maintenant, si vous êtes toute seule, et que vous sonnez, et que vous entendez ce que vous sonnez, vous avez seulement deux casquettes. Vous n'êtes pas obligé de changer de casquette au milieu. Enfin, c'est pas... Bon, mais vous avez deux casquettes. Une casquette de sonneuse. C'est-à-dire, vous créez la possibilité de faire la mitzvah d'écouter.
Dans la mitzvah d'écouter, on ne le chauffe pas, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on ait de...
Pardon?
Dans la mitzvah d'écouter, on ne le chauffe pas, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on ait de pensées étrangères.
Non, il faut écouter le chauffard.
Il faut être concentré sur le chauffard.
Voilà, il y a du chauffard, j'écoute le chauffard. Alors, ça, peut-être, ces vibrations, les bonnes vibrations, comme on dit, etc., elles vont avoir un effet sur moi. Bon, alors je laisse avoir leur effet. Bon, si ça vous fait trembler, alors vous tremblez. Si ça vous fait pleurer, pleurez. Mais en fait, la vérité, c'est que comme la sonnerie de chauffard, c'est le couronnement du roi, alors sauf à pleurer de joie, on doit être besimcha. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de pleurer, de penser qu'il faut pleurer. On n'a pas à pleurer, c'est un moment de joie en réalité. Comme toutes les mitzvot, c'est toujours toutes les mitzvot doivent être faites avec joie. Et là, c'est Yom Tov, c'est Mitzvot Hayom de Yom Tov, de même qu'on se réjouit quand on se coule le lulav, de même, l'audition du shofar, c'est être joyeux, c'est... Je suis là au moment où on couronne le roi. Je participe à ce couronnement. Il ne faut pas être triste. Alors nous disons, Tikou b'chodesh shofar, ki chok li Israelou, sonner du shofar, c'est un chok pour Israël. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu nous a donné ce secret-là, ce principe, au clan d'Israël, et nous l'a donné comme un chok. Pourquoi? Parce que c'est tellement énorme ce qu'on est en train de faire, que ça ne peut être entendu que comme un choc. Il n'y a pas de rationalité, si vous voulez, qui va nous permettre de comprendre comment nous, en soufflant dans la corde de bélier, on va produire les conditions de dévoilement, quasiment. C'est un choc. Mais d'un autre côté, c'est curieux, c'est Chok l'Israël, Mishpat l'Eloke Yaakov. C'est un Mishpat, c'est une façon de se conduire du Dieu de Jacob. Le Dieu de Yaakov, il se conduit comme ça. Yom Adin, Yom Amishpat, le jour du Din, le jour du Mishpat. Akadosh Baruch Hu, il écoute le shofar. Il y a quasiment un renversement. Au Sinaï, on pourrait dire, le shofar nous venait d'en haut et nous écoutions. Et à Rosh Hashanah, c'est nous qui sonnons et c'est Hachem qui écoute. Et dans la bracha qu'on fait juste avant la sonnerie de shofar à Moussav, je vous dis chaque fois il y a dix versets puis ensuite une bracha. Dans la bracha, on dit d'Hachem, Baruch Atah Hachem, etc., qu'il est shomé à kol shofar ou ma'azin trua ve'ein do melach. Ça veut dire, à Kadosh Baruch Hu, il écoute. Il écoute le shofar, il prête l'oreille à la teroua, à cette sonnerie interrompue, si vous voulez, tac tac tac, avec plus ou moins long, les fameux sanglots longs et sanglots courts. Il prête l'oreille à cela, et on dit umi domé là. Quand on dit umi domé, c'est-à-dire on met même l'accent ici que c'est quelque chose qui n'existe que par rapport à Hachem. Il y a des choses dont on dit, qu'on dit sur Hachem, alors, toute chose égale par ailleurs, les mots peuvent être utilisés pour d'autres rois. Vous avez un empereur, d'une certaine manière, à la limite, l'empereur, il s'arroge, à tort ou à raison, mais le droit de vie ou de mort sur ces sujets. Akadosh Baruch Hu, il a aussi un droit de vie ou de mort. Par contre, le fait qu'Hachem, lui, il puisse faire ressusciter les morts, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est pour ça que c'est marqué dans la Hamida, Vein Domelcha. Personne ne t'aide. Il n'y a rien qui soit semblable. Et donc ici, si on dit dans la Bracha que rien n'est semblable à Hachem, aucun roi, aucune instance, qu'un empereur, et ça, dans cette écoute du shofar, c'est endomètre, ça veut dire, il n'y a pas ici de parallèle, ça veut dire, très souvent, la Gemara dit qu'il y a une mitzvah d'aller voir les rois, y compris les rois d'Égoïde. Pourquoi? Parce que on a besoin de voir la pompe avec laquelle tout ça, tout ce tralala, on a besoin de le voir pour rendre un peu plus concret chez nous cette idée qu'Hachem est roi. Sur la royauté, il est dit, tu peux aller regarder, c'est pas du tout qu'on pense que c'est la même chose en haut, mais nous on a besoin de quelque chose qui éveille en nous cette notion. Dans le shofar, il n'y a pas. En Suisse, il y a des sonneurs de cor avec des très longs machins. Vous pouvez aller écouter les sonneurs de cor en Suisse. Ne croyez pas qu'en écoutant ça, c'est très joli, mais en écoutant ça, c'est d'une quelconque manière quelque chose qui ressemblerait à Tkiat Shofar. C'est rien. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a rien dans ce monde qui corresponde à cela. On dit une drôle de chose, effectivement, sur cette écoute d'Hachem Hachem écoute, effectivement, le son du shofar. On dit qu'Hachem, il est Omed Mikisedin, Vyoshev et Kiserachamim. On a déjà un peu parlé de ça. Akadosh Baruch Hu passe d'un trône de justice, de din, de rigueur, et il passe sur un trône de rachamim, un trône de tendresse. Il va juger avec tendresse. Là aussi, c'est presque un non-sens. Qu'est-ce que ça veut dire juger avec tendresse? Le jugement, ça se fait selon les règles. Il y a des règles. Voilà, t'as pas respecté, voilà, il y a un tarif. Que ça sert à quoi la tendresse? Ici, dans le jugement, il n'y a pas de place pour la tendresse. Qu'est-ce que ça veut dire qu'au plein milieu du jour du jugement, nous, ce qu'on fait, on va provoquer qu'Hachem, au lieu de rester sur son trône de justice, de rigueur, il va passer sur un trône de tendresse. Allez, qu'est-ce que c'est ce truc? C'est un autre monde. Un monde dans lequel la justice se rend à partir d'un trône de tendresse. Alors bien sûr, puisqu'il s'agit toujours de... Ça, je crois qu'on a un peu parlé déjà de ça, je ne sais pas si c'est avec vous, qu'il faudra comprendre que la Rachamim, elle va être intégrée dans le Din. Bon, c'est compliqué à comprendre, mais c'est de ça qu'il s'agit. On est bien obligé de considérer qu'on est en train de juger, donc juger avec Rachamim, avec tendresse. La Gemara, elle demande évidemment... Lama tokin beshofar shel ail. Pourquoi on prend une corne de bélier pour sonner? Alors, tout le monde connaît la réponse, mais c'est, on la connaît parce qu'elle est écrite dans la Gemara. Amar Kadosh Baruch Hu, sonnez devant moi avec une corne de bélier, afin que je me souvienne en votre faveur de la Akedat Yitzhak ben Avraham, et que je considère qu'ilou akadtem atzmechem lefanai. Boum. Sonnez devant moi avec cette corne de bélier, afin que je me souvienne de la Akedat Yitzhak. Explication. Quand Avraham Avinu a reçu l'ordre d'Hachem de ne pas toucher Yitzhak, Avraham Avinu n'était pas très content. Avraham Avinu, il aurait bien voulu faire ne serait-ce qu'une toute petite entaille pour montrer qu'il allait jusqu'au bout de ce qu'il avait compris qu'il devait faire. Ok, je ne vais pas le tuer parce que je n'ai pas le droit, je veux pas, mais laisse-moi au moins faire une entaille. Hachem a dit, pas question, tu ne touches pas, tu ne touches pas. Alors le pasouk dit qu'Avraham Avinu l'a regardé autour de lui et il a vu qu'il y avait le fameux bélier qui était pris dans le buisson, etc. Il a pris le bélier et il en a fait la shrita, il l'a porté comme korban et on dit que ce korban, il est là à la place, c'est le premier qui a fait cela, Avraham Avinu, il a substitué un animal à un être humain. Comme si on voulait garder l'idée de sacrifice humain, elle est correcte, mais on n'a pas le droit de tuer les hommes, mais qu'en réalité il faille se donner entièrement à Hachem, on comprend. Alors comment on fait ça? Avec la substitution. Et donc comme il s'agissait d'un bélier, on va prendre de ce bélier qu'Abraham Avinu a substitué à Yitzhak son fils, et on va utiliser tout ce qu'on va pouvoir utiliser de ce bélier. On va utiliser la corne, on va utiliser les tendons pour les tefilines, etc. On va utiliser au maximum tout ce qu'on peut utiliser de ce fameux bélier, parce que ce bélier est réminiscent, si vous voulez, de Akedat Yitzhak. Donc si vous voulez que je me souvienne et que je vous donne le mérite de la Akedat, ça c'est aussi énorme. Parce que nous sonnons dans une corne de bélier. Que bélier, ça fait signe, ça fait sens à Akedat Yitzhak. Mais bon, Akedat Yitzhak, c'est Abraham qui a fait Akedat Yitzhak. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Hachem dit non. Si vous faites ça, alors moi je vais me souvenir et vous donner le bénéfice de l'Akedat comme si vous étiez vous-même sacrifié sur l'autel. Comme si vous aviez fait pour vous-même ce qu'Yitzhak Avinu a fait. C'est pas marqué, c'est pas marqué sacrifié, mais akatem, c'est vous, si vous étiez ligoté sur l'autel comme Yitzhak Avinu l'a fait. Ça veut dire que la contribution d'Yitzhak Avinu, quand il pensait que son père allait faire de lui un korban, c'est l'avoir demandé d'être attaché. Il a dit à son père, Je ne suis pas sûr de ne pas bouger. C'est quand même pas évident que je... Quand on voit un couteau qui vient vous... Il a dit, je ne peux pas garantir que je ne bougerai pas. Mais si je bouge, la shrita n'est pas cachère. Et si elle n'est pas cachère, alors tu m'auras purement et simplement assassiné, et ça ne sera pas un corban. Pour que je ne puisse pas bouger, attache-moi. C'est lui qui a demandé, ce n'est pas lui, son père qui l'a attaché. Il avait 37 ans, il sera Kabilou. Son père ne pouvait pas l'attacher à son corps défendant. On ne peut pas, lui tout seul, Abraham Avinu, il n'avait pas des techniques particulières pour attacher son fils.
Je crois qu'il avait juste demandé si c'était bien serré. Je n'avais pas compris que c'est lui qui avait demandé à être attaché.
Il a peut-être aussi demandé, est-ce que tu l'as bien serré?
Oui, je l'ai entendu
poser. Oui, il avait tenu la fin, mais le commencement, c'était aussi lui qui a demandé. On voit ici de nouveau quelque chose d'énorme. Le Akedat Yitzhak, c'est au fond le geste de sacrifice de soi-même concret le plus puissant qui soit, si on peut parler comme ça. Et donc justement, il se trouve qu'avec une mitzvah de shofar, qui est la mitzvah de la mise en acte aussi la plus puissante de l'homme, il faut mentionner la Akeda. Donc pour mettre en quelque sorte, c'est comme si pour se mettre, nous, en phase avec ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire un acte qui est d'une telle puissance, puisque sa puissance, c'est provoquer le dévoilement d'Hachem. Et en référence au dévoilement le plus grand d'Hachem, celui qui a eu lieu au Sinaï. Donc à ce moment-là, avec notre Tkiat Shofar, on veut aussi récupérer la Akeda en quelque sorte. Donc ça, ce serait la Avoda de Tkiat Shofar, c'est-à-dire tout ça, c'est dans ce petit geste-là qui consiste à souffler dans une corne de bélier. C'est-à-dire que dans notre pensée, on voudrait arriver à ligoter notre Yetzer Hara, si vous voulez. Nos forces, notre puissance, notre volonté, y compris notre instinct de survie même. Savoir que tout ça, il faut le donner pour la Avodat Hashem. Et on est prêt. Alors, vous voyez, c'est vraiment très symbolique, ce sont des signes qui sont faits, qui sont plus ou moins lointains par rapport à tout ce que ça doit développer comme... Alors, vous demandiez à quoi il faut penser. Bon, si on peut penser à ça, c'est très bien. Maintenant, je ne sais pas si ça va pas nous parasiter, parce que c'est tellement énorme que peut-être on n'arrivera même plus à écouter le shofar si on commence à penser ça. Mais peut-être il faut y penser avant. Et vous en pensez à Rosh Hashanah, quand vous vous levez le matin, vous vous dites, voilà ce qu'on va faire. Et après, bon, quand on écoute le shofar, on écoute le shofar. C'est difficile de penser à tout ça pendant le shofar. Donc c'est une drôle de chose ici parce que, si vous voulez, dans la Akeda elle-même, il y a un petit problème avec ce que je vous ai raconté. Quand c'est un malach qui a dit à Avraham Avinu, ne touche pas à Yitzhak. Quand il lui a dit ça, il lui a donc dit, voilà, c'est terminé. L'épreuve est terminée. Tout ce que Hachem voulait savoir... C'est est-ce que tu y étais prêt à sacrifier ton fils? Tu as montré que tu étais prêt, c'est fini, terminé. Alors qu'est-ce qu'il veut Abraham? Abraham, qu'est-ce qu'il veut maintenant? Absolument faire un geste? Mais c'est... La mitzvah, elle est finie. la mitzvah qui lui était donnée, l'épreuve qui lui était donnée, c'est d'arriver à manifester qu'il était prêt à aller jusqu'au bout. Il était prêt à aller jusqu'au bout, c'est le malheur qui l'a arrêté, sur l'ordre d'Hachem bien sûr, et il a arrêté. Mais il veut quand même continuer à faire quelque chose. Pourquoi? Parce que, d'une certaine manière, le maasé, l'acte, n'a pas encore été fait. S'il avait pu faire quelque chose qui est de l'ordre de la shrita, en fait, alors, même si c'est une toute petite entaille, alors ça c'est un acte qui ressemble, qui est homogène avec la shrita. Mais ce que j'ai fait, de lever mon bras pour le faire, c'est pas encore suffisant pour qu'on puisse parler vraiment. Donc il voulait absolument passer à l'acte d'une certaine manière. D'accord, je peux pas passer à l'acte complètement, parce que ça c'est interdit. Mais laisse-moi faire quelque chose qui sera au moins du même ordre que l'acte. Faire une entaille, faire couler une goutte de sang. Non, Hachem a dit non, pas question. Alors il a fait l'acte, mais sur le substitut d'Yitzhak, là du coup il a fait une vraie shrita et toute la avoda d'une ola, d'un animal, d'un corban qui est entièrement consumé pour Hachem. Pardon?
Le fait de ne pas le faire, c'est aussi un acte.
C'est?
Le fait de ne pas le faire, c'est aussi un acte.
Bon, ça, vous allez loin.
Ben, ne pas faire quelque chose, ça
non, mais il a rien fait. Il voulait faire un maasé qui soit homogène, qui ressemble un peu à l'acte, au maasé qu'il devait faire. Lui, il pensait, je dois faire une shrita. Qu'est-ce que c'est une shrita? C'est une coupure de... couper dans la viande. Ok, alors je vais couper dans la viande. Pas à l'endroit qui va le faire mourir et pas aussi profondément et tout ce que. Mais je vais couper, je vais faire ce geste-là. Hachem m'a dit non, pas sur Yitzhak.
Mais ne savez faire que pas aussi dans la mitzvah ?
Non. Non, ça s'arrêtait là parce que tout ce qu'Hachem voulait savoir, c'est seulement une épreuve. Hachem voulait savoir, est-ce que tu es prêt à le faire ? Quand Hachem a vu qu'il était prêt à le faire, alors c'est bien, ça s'arrête. Parce que il voulait aller jusqu'au maasé. J'ai pas fait d'acte qui montre que j'étais prêt à le faire. J'ai fait les préparatifs, mais l'acte, j'en ai pas fait. Hachem lui dit, ça me suffit. Mais Abraham Avinu, il voulait faire un acte pour montrer, parce que quelque part, et c'est très frustrant, j'ai rien fait. Je n'ai rien fait de ce que je devais faire. Avant, oui, n'était pas à ce niveau-là, que vous voulez. Il ne savait pas.
Non, mais vous me dites toujours la mitzvah, il ne faut pas la faire pour soi, il faut la faire pour Hachem.
Mais oui, bien sûr. Alors, il pensait que pour Hachem, il voulait montrer. Il pensait, Hachem me fait en quelque sorte un rabais. Il me dit que ça suffit. Non, je veux au même montrer que je fais le geste jusqu'au bout.
Est-ce qu'on n'a pas dit ça à la dame, aussi qu'il a voulu faire plus de ce qu'on.
Non, mais là, c'était. Il a voulu inventer des choses. Abraham Avinu, il ne veut pas faire plus que ce qu'on lui a demandé. Il veut faire quelque chose. Je suis empêché. Hachem lui dit, c'est bon. C'est bon, tu n'as pas besoin, je n'ai pas besoin. Il dit, ben, je vais quand même, pour moi, j'ai besoin de le montrer. Le Rambam dit, sur Tkiat Shofar, il dit, Tkiat Shofar, afalpi shei gzerat hakatuv, bien que la Tkiat Shofar soit un décret, c'est un passouk qui dit qu'il faut le faire, c'est tout. Et si c'est un, si on nous dit tout ce que je veux, c'est que tu fasses ce geste-là, c'est tout, je ne demande pas plus. Et à la limite, c'est le geste, il ne faut pas aller au-delà. Alors, le Rambam dit néanmoins, Remez Yeshba. Néanmoins, dans cette mitzvah, il y a un remez, c'est-à-dire il y a une allusion qui est faite. Bien sûr, la mitzvah, ça consiste à sonner le shofar. Mais, dit Rambam, dans cet ordre de sonner le shofar, il y a un remez, une allusion, au fait que, quelque part, on vient nous dire avec cette mitzvah, Uru Yeshenim Yeshenatrem, dormeurs, éveillez-vous, réveillez-vous, sortez de votre torpeur, votre sommeil, arrachez-vous à votre torpeur, et souvenez-vous de votre Créateur, et allez regarder d'un peu plus près vos actions. Critiquez vos actions. D'habitude, on a l'impression, on entend ce remède, cette allusion, que c'est comme si on avait affaire à un marchand ou à un artisan qui sont occupés à leur parnassa. Ils veulent que la parnassa soit bonne, donc le marchand va s'occuper de la marchandise. Et l'artisan s'occuper de lui qui va s'occuper en permanence de son travail. Donc c'est tout, c'est comme si Hachem était un marchand qui nous disait « Tu fais ton travail ou quoi ?» Mais d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, on peut comprendre dans le Rambam un peu autrement. On ne parle pas a priori de petites gens. On parle ici, la mitzvah, elle concerne aussi ce qu'on appelle Gdolé Olam. Les tzadikim, les plus grands tzadikim, les personnes pieuses, Anshe Maase, des gens qui se consacrent entièrement au service d'Hachem, et eux, ils ont aussi la mitzvah de sonner du shofar. Alors qu'est-ce que c'est le remez pour eux? Eux, on n'a pas besoin de les réveiller, ils sont réveillés. Alors ce qu'on a vu, c'est que il y avait dans cette histoire de chauffard, il y avait cette idée du le summum de l'action, le summum des choses. Ça s'appelle Avepoal Agamour, ça veut dire l'actualisation maximale de la chose. C'est-à-dire, il faut considérer un nouveau frais peut-être, ça veut dire que tout ce que j'ai fait durant toute l'année, par rapport au niveau dont on parle aujourd'hui avec ce chauffard, c'est comme si toute l'année j'avais somnolé. Toute l'année, on n'est pas au top niveau. Et donc, il faut faire tshuva. Il faut se réveiller. C'est-à-dire, quel qu'ait été les efforts que le tzaddik a fait par rapport à ce que représente la sonnerie du chauffard qui parle du top niveau, on n'est pas au top niveau en permanence. Chacun pour soi doit se dire, voilà, moi je n'étais pas toute l'année au top niveau. Il faut l'être. On a donc devant nous ce moment de la Tkiat Shofar avec cette obligation de comprendre que le service d'Hachem, il exige le top niveau. Bon, bien sûr, toute l'année, c'est pas possible. Mais au moins, une fois par an, il faut prendre conscience de cela, de cette possibilité du top niveau. Et de, ok, ça va. On ne se fait pas d'illusions, on ne pense pas qu'on va être toute l'année comme à Rosh Hashanah. Mais si vous voulez, si on n'a même pas l'image à Rosh Hashanah, alors toute l'année, ça va dégringoler, obligatoirement. En fait, peut-être que c'est pas suffisamment, c'est pas vraiment seulement ça. Ça veut dire, l'idée c'est que c'est pas le problème que nous ne sommes pas au top niveau seulement. C'est que ce top niveau dont on parle, il a à voir avec ce qui s'est passé, avec le fameux top niveau du dévoilement du Sinaï. Le chemin, en fait, c'est de comprendre que si je veux effectivement obtenir ce Allah Elohim Bitrua, faire monter, en quelque sorte, dévoiler Hachem dans le monde, réellement, alors il faut que pendant ce moment-là, j'essaye de le faire, en fait. Je sois conscient qu'il y a un moment où je peux le faire. Ça nous est donné comme possibilité. Ça veut dire qu'en réalité, dans toute notre avoda, c'est aussi de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas simplement de s'acquitter de son devoir. Bon, j'ai des mitzvot qui me sont imposées. J'ai à faire ce que je dois faire. Ce qu'on veut tirer de l'enseignement du shofar ici, c'est cette idée que je suis responsable, de quelque manière. De produire ce dévoilement d'Hachem dans le monde. Vous vous souvenez, on a dit sur les Malchouyot, que la royauté d'Hachem, elle a lieu de deux manières. Ou bien c'est Hachem lui-même qui se dévoile. Comme il s'est dévoilé à la création, il s'est dévoilé à la sortie d'Égypte, il s'est dévoilé à Yamsouf, il s'est dévoilé à Matan Torah, etc. Là, c'est Hachem qui a fait le travail. Nous, on n'a rien fait pour ce dévoilement-là. On était là pour recevoir, mais on n'a rien fait. Et on avait dit, il y a une deuxième façon de parler de la royauté, du couronnement d'Hachem, etc. C'est ce que les hommes font. C'est nous qui le nommons roi, en quelque sorte. C'est ce qu'il veut. Parce que lui, il peut se dévoiler comme il veut. Bon, alors, il y a le problème, est-ce que nous, on va le recevoir? Mais c'est nous qui le faisons. On avait bien clairement dit que la royauté dans le clan d'Israël, c'est bien Shmuel qui a oint David Améler, par exemple. Donc, si vous voulez, on peut dire que ça, c'est du haut vers le bas. Shmuel a reçu l'ordre d'oindre David. Donc David est un roi de droit divin, on pourrait dire, si on peut utiliser la terminologie française. D'accord ? Ça vient d'en haut. Mais en réalité, quand le clan d'Israël n'a plus voulu suivre David, parce qu'il a suivi Absalom, son fils, qui s'est révolté contre lui, quand le clan d'Israël, quand les gens qui ont suivi Absalom étaient majoritaires, David n'était plus roi. Hachem a pourtant ordonné qu'il soit roi. Si le peuple ne suit pas, il n'est plus roi. Et Absalom était roi alors qu'il n'a été moins par personne. Le peuple a choisi Absalom comme roi. Et là, les Chachamim disent que pendant tout ce temps-là, David HaMelech s'est conduit comme un simple sujet. Par exemple, si David faisait une faute, par exemple, il apportait les korbanot qu'apporte un simple sujet et pas les korbanot qui sont différents qu'apporte le roi. Le roi ou un prince, il apporte des korbanot différents suivant quelle faute il a faite. C'est normal, il n'y a pas de problème, il a de l'argent, etc. Donc il peut apporter certains korbanot. Mais pendant ce temps-là, David n'apportait les korbanot que comme monsieur tout le monde. Pas qu'il a fait des fautes, mais s'il en avait fait, en tout cas, il aurait apporté un corban comme monsieur tout le monde. Parce qu'il n'était pas roi à ce moment-là. Mais c'est paradoxal. Il n'est pas roi, il est remplacé par quelqu'un. Lui, il est oint comme roi par Hachem, par Shmuel, sur l'ordre d'Hachem. Et son fils se révolte contre lui, et c'est le fils qui devient roi, sans jamais avoir été oint par personne, ni pas désigné par Hachem du tout pour ça. Puis ensuite, quand Absalom meurt, ben David redevient roi. Sans qu'il y ait une nouvelle intronisation, il est roi. Parce qu'il était un roi à bas bruit, quoi. C'est quand il y avait un plus roi que lui, et quand le plus roi que lui a disparu, ben, il était roi. Donc, si vous voulez, cette idée de la royauté, qui se présente de deux manières, donc, ce qui nous intéresse, nous, en tout cas à Rosh Hashanah, c'est l'idée que c'est nous qui couronnons le roi. On parle de cette façon-là pour la royauté de pouvoir se manifester par le choix des hommes, des êtres humains. Et donc, de façon générale, ça parle donc de l'impact énorme de nos actions, qui vont bien au-delà du simple obéissance à des règles qui nous ont été prescrites, fût-ce par Hachem. Et ben, d'accord, c'est Hachem qui nous a donné ces règles. Mais là, ça va encore, ça dépasse tout. C'est ça le remèze, en quelque sorte. Quand Hachem beaucoup nous a donné ce pouvoir-là, d'arriver à ce niveau-là, ce niveau de capacité de couronner Hachem. Et si vraiment on s'engage dans cette voie-là, si vraiment avec cette kiyat shofar, on manifeste ceci, il y a une conscience de ce qui est en train de se jouer avec ces sonneries de chauffard, alors on est jugé à ce moment-là. Bon, Rosh Hashanah, on est jugé. Et on est jugé au moment d'être kiyot. Donc au moment de cela, au moment où on proclame la royauté d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est jugé à ce moment-là ? Et on est jugé sur ce moment-là. On est jugé sur cette capacité qu'on a, sur le fait que le droit, la possibilité, peut-être l'obligation nous est faite, nous est donnée, faite, de proclamer la royauté d'Hachem. C'est dans la mesure dans laquelle je suis capable de proclamer cette royauté, c'est ça mon jugement. Un jugement de l'instant. Alors on a dit, bien sûr, que a priori, c'est la résultante de notre travail de l'année, peut-être même de plus qu'une année. Bon, mais en théorie, si quelqu'un a une illumination ce jour-là, tout à coup, parce que la prière l'y a aidé, ou parce qu'il est dans un bon moment, ou parce que on ne sait pas pourquoi, eh bien, il est capable de s'arracher à tout son passé et réussir parfaitement à ce jour de jugement. Il a parfaitement passé le jugement. Même si toute l'année, il n'a pas été dans les meilleurs. Donc ce moment de Tkiat Shofar, c'est un moment de Chizouk, c'est un moment qui vient nous renforcer en quelque sorte. Rashi sur le Pasuk qui dit « Chizku ve'amtsu » « Renforcez-vous et soyez courageux, entreprenant. » Qui Hashem Elokecha ou Aolech Imcha, lo yachpecha ve lo yazvecha. A priori, il y a deux choses complètement différentes. Lo yachpecha, et ensuite, lo yazvecha. Mais Rashi dit que c'est une seule et même chose, et il écrit, lo yiten lecha rifion, liot ne'ezav mimenu. Rifion, ça veut dire tenir de façon très lâche. C'est l'expression qu'on utilise pour caractériser la situation d'Ebnei Israël par rapport à la Torah quand Amalek les a attaqués. Pourquoi Amalek a pu les attaquer? Parce qu'il ne tenait pas fermement la Torah. Donc ici, le passage dit, dans la lecture qu'en fait Rashi, disons, pour l'instant, se concentrer là-dessus. Hachem ne va pas te laisser être un peu léger. Parce que ça entraînerait qu'il devrait t'abandonner. Quelque part, si on est léger par rapport au mitzvot, c'est comme une façon d'abandonner Hachem. Et comme Hachem est, comme on dit, Hachem Tzilcha, Hachem est notre ombre. C'est-à-dire, si nous, on se détache de lui, il se détache de nous. Donc, si nous, on ne fait pas les choses bien, donc, ça veut dire qu'on s'éloigne d'Hachem, et bien, on va se retrouver éloigné d'Hachem du double de langue, si vous voulez. Parce qu'Hachem, lui aussi, de cette même... il aura ce même éloignement par rapport à nous. Ça veut dire ici, Akadosh Baruch Hu aide l'homme, des deux mains si on peut parler comme ça. Akadosh Baruch Hu ne l'abandonnera pas si lui, il ne se laisse pas aller, en quelque sorte. Alors Akadosh Baruch Hu ne l'abandonnera pas, il ne va pas le laisser sans siyata d'Ishmaïa, sans l'aide du ciel. Et ça, c'est ça que la Tkiat Shofar nous enseigne, en fait. Pas le Mahamad, la situation dans laquelle on va sonner le Shofar. Parce que c'est cet état d'actualisation absolue, parfaite, de l'hypossentialité. Et ça, c'est en fait, ça c'est une leçon pour toute l'année, évidemment. Donc il s'agit de se renforcer pour réussir Rosh Hashanah, parce que si on réussira Rosh Hashanah, alors Hachem va nous aider pour le reste du temps.